Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Une image chasse l'autre, une émotion chasse l'autre, c'est le principe de la société du spectacle auquel nous sacrifions tous. Il y a un an à peu près, la photo d'Eylan, ce petit Syrien noyé sur une plage turque, déclenchait en Europe une série d'initiatives politiques, la plus impressionnante étant bien sûr celle d'Angela Merkel, qui ouvrait tout grand aux réfugiés les portes de l'Allemagne. Un an plus tard, après tant d'autres clichés de rafiots surchargés, de naufragés en Méditerranée, de camps saturés en Grèce et en Italie surtout, le raidissement des opinions publiques et des gouvernements est manifeste et l'engrenage entre pression migratoire, angoisse sécuritaire et poussée populiste s'accélère. Au-delà des drames qui ponctue chaque semaine l'actualité, le décalage entre la réalité des flux migratoires, qui ne vont pas se tarir, loin de là, et les grilles de lecture traditionnelles derrière lesquelles s'abritent les décisions politiques, ce décalage va croissant. Peut-on encore distinguer réfugiés et migrants économiques? Comment évaluer les dispositifs proposés par l'Union européenne et les pratiques des États membres? Quels sont les facteurs qui agissent réellement sur l'orientation, le volume des courants migratoires? Ce phénomène qui affecte tant notre partie du monde depuis quelques années, comment l'évaluer à l'échelle de la planète? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Claire Rodier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez cofondé le réseau euro-africain Migre Europe et vous êtes juriste au groupe d'information et de soutien aux immigrés. François Gemène, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique et aussi à Sciences Po Paris. Jean-Christophe Dumont, vous dirigez la division des migrations internationales à l'OCDE et avec nous par téléphone, je l'en remercie, Ferruccio Pastore à Rome, directeur du Forum international et européen de recherche sur les migrations. François Gemène, je commence par vous. Vous avez publié avant l'été un atlas assez déconcertant parce qu'on y voit pour une fois les différents facteurs qui affectent les courants migratoires au niveau de la planète, y compris les facteurs d'environnement. Cela veut donc dire qu'il n'y a pas que la guerre, l'insécurité, la tyrannie. Il y a aujourd'hui dans le monde des gens qui sans arrêt partent de chez eux parce qu'ils y sont contraints par des phénomènes extrêmement variés et différents.
Bien sûr, il y a à la fois aujourd'hui un nombre record de personnes qui sont déplacées par des guerres ou des persécutions à travers le monde. On évalue à 65 millions de personnes, c'est un record historique. Et à côté, il y a aussi un nombre de plus en plus grand de personnes déplacées par des catastrophes naturelles, par la désertification, par les impacts du changement climatique. En réalité, nous sommes figés dans une grille de lecture qui veut cloisonner distinctement les réfugiés politiques des migrants économiques, alors que sur le terrain, d'abord, les facteurs de migration et de déplacement sont beaucoup plus multiples que cela, et surtout, ces facteurs s'influencent les uns les autres. Il est très difficile d'extraire un facteur de la somme des dégradations, des persécutions qui poussent les uns et les autres à migrer.
Et il est évident que les causes environnementales, en particulier, par exemple la sécheresse, est historiquement à l'origine de mouvements de population tout à fait importants, et pas seulement au Sahel.
Bien entendu, il faut bien comprendre que les facteurs environnementaux ont toujours affecté la distribution de la population dans le monde. Après tout, l'Europe a été colonisée parce qu'elle jouissait d'un climat favorable et de ressources naturelles abondante. Il y a aujourd'hui plus de gens qui sont installés sur les côtes en raison de moyens de communication plus favorables et de sols plus fertiles. Et donc, ce facteur qui a toujours influencé la distribution de la population sur la planète, alors que nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un changement majeur, transforme aussi la distribution de la population sur la planète. Je prends simplement un chiffre. Chaque année, on estime que les seules catastrophes naturelles déplacent en moyenne 26 millions de personnes. Et à ce chiffre, il faut ajouter évidemment les dégradations plus lentes de l'environnement, comme la hausse du niveau des mers ou la désertification. On est donc ici face à un facteur majeur de migration et de déplacement dans le monde.
La situation de l'Europe, singulièrement, vous rappelez qu'on avait été colonisé parce qu'on avait la chance d'avoir un climat tempéré, des ressources naturelles. On a aussi la chance, évidemment, d'être le continent le plus riche et le plus démocratique. Et évidemment, Une mer nous sépare d'une Afrique et d'un Moyen-Orient
Et ici, il faut tourmenté. Le dire, désormais, la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants et les réfugiés. Bien sûr, l'Europe peut se targuer d'être un continent de paix et de prospérité, donc constitue logiquement une destination attractive pour tous ceux que des motifs divers poussent loin de chez eux. Mais comme nous voulons réserver cet espace à quelques 500 millions de privilégiés, comme nous avons ouvert les frontières intérieures et renforcé dans le même temps les frontières extérieures, eh bien le fait que nous ayons fermé les frontières extérieures a transformé l'Europe en une forteresse et en la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants, avec un chiffre de mortalité record cette année en Méditerranée qui dépasse déjà de loin le chiffre de 2015.
Claire Audier, pourquoi ce chiffre de mortalité record ? C'est par rapport à quoi ? Par rapport à un volume de réfugiés
C'est à la fois par rapport au nombre de personnes qui veulent entrer en Europe, pour les raisons qu'a résumé François Gemène, et aussi en raison d'un renforcement croissant des modalités de contrôle des frontières. On pourrait parler depuis une dizaine d'années d'une militarisation de la surveillance des frontières qui fait c'est d'actualité que on soupçonne par exemple l'agence Frontex qui est l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne d'aller jusqu'à tirer sur des embarcations de migrants qui tenteraient de pénétrer dans le territoire européen.
Il y a des preuves de ces
il y a une enquête visiblement qui va être en cours puisque les faits ont été révélés. Les faits remontent s'ils sont avérés, remontent à maintenant plus d'un an. Mais il semble qu'il y a suffisamment d'éléments convergents pour que, en tout cas, l'affaire sorte aujourd'hui.
Mais on voit au contraire qu'il y a de plus en plus de bateaux européens. Je ne parle pas seulement des organisations humanitaires, mais il y a quand même un embryon de
sauvetage.
De réponse et de sauvetage.
Ouais. Il y a effectivement, en parallèle, c'est un petit peu les deux mains de l'Europe. Ce sont les mêmes qui, éventuellement, à travers la marine italienne, par exemple, ou des forces de police de certains autres pays, vont aller organiser des opérations de sauvetage. Mais c'est tout à fait paradoxal de renforcer, tout se renforce. Les contrôles, le nombre de morts et le nombre de navires qui vont maintenant faire du sauvetage, sans compter les implications financières de ces dispositifs qui sont parfaitement inutiles finalement, parce qu'on voit que le nombre de personnes qui entrent en Europe irrégulièrement au regard des législations ne cesse d'augmenter. En proportion de l'augmentation des moyens financiers qui sont mis à la surveillance des frontières.
Mais on peut aussi imaginer, on en est les témoins tous les jours, aussi bien en France que dans d'autres pays européens. Là, récemment, l'Autriche reproche à la Hongrie de ne pas appliquer le dispositif européen qui est toujours celui de Dublin, si j'ai bien compris, qui contraint en principe le pays d'entrée à procéder aux formalités, etc. Donc la Hongrie ne le faisant pas, l'Autriche se retrouve avec un lot de réfugiés plus important. On voit bien évidemment que nos gouvernements démocratiques sont aussi aux prises avec des opinions publiques qui frémissent à l'idée. On a vu ces affiches invraisemblables en Grande-Bretagne au moment du référendum sur le Brexit.
On peut l'interpréter.
Où on affirmait, évidemment à tort, que 700 000 Syriens étaient sur le point d'envahir la Grande-Bretagne.
On peut faire le lien de cause à effet de cette façon. Nos gouvernements sont prisonniers d'une opinion hostile aux étrangers. On peut aussi, moi c'est un petit peu mon point de vue, penser que quand des gouvernements ou des chefs d'État affirment de façon positive un discours d'ouverture vis-à-vis des étrangers, les opinions aussi sont influencées par ces discours-là. Il me semble que la sorte de parenthèse qu'on a connue il y a pratiquement exactement un an avec les déclarations de Mme Merkel et même en France, ça a duré très peu de temps, mais des déclarations du président Hollande qui a invité les maires des communes françaises à accueillir des réfugiés. On a vu à cette époque-là un mouvement d'empathie venant de la population française particulièrement étonnant et qui est venu d'un seul coup. Donc l'argument
mais
de l'opinion,
une fois, c'était l'émotion et en particulier la
c'était
photo
l'émotion,
de ce petit garçon.
C'était l'émotion, mais l'émotion relayée par un discours un peu fort. Et il me semble que ce discours fort est en mesure, en tout cas, de rééquilibrer ce qu'on appelle l'opinion, qui est très hésitante, très inquiète. Voilà, c'est quelque chose avec quoi on joue. Donc quand on dit il y a cette montée de l'extrême droite et c'est extrêmement menaçant et c'est pour ça que les États sont paralysés, les chefs d'État sont paralysés, moi je suis un petit peu dubitative. Voilà, le rôle d'un gouvernement, c'est d'expliquer à sa population la réalité. La réalité, c'est ce que François Jomène a dit, par exemple, en gros, que je traduis moi par ça existe depuis toujours et ça ne va pas s'arrêter et ça va augmenter et ça ne peut qu'augmenter. C'est plus intelligent, à mon avis, d'expliquer ça à sa population et d'en faire un enjeu, un défi positif, que de se retrancher derrière des murs, des grillages et des dispositifs, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus meurtriers. Aujourd'hui, on est aujourd'hui à 15 morts par jour de personnes qui tentent de venir se réfugier en Europe. C'est très impressionnant.
Ferruccio Pastore, merci d'être avec nous par téléphone de Rome. C'est précisément le canal de Sicile qui s'avère aujourd'hui le plus dangereux, bien plus encore que les îles grecques de la mer Égée pour ceux qui fuient la Turquie. Pourquoi cet accroissement de la dangerosité dans cette zone-là, qui accompagne d'ailleurs l'accroissement, si j'ai bien compris, du nombre de réfugiés à nouveau vers les côtes de Sicile et des Pouilles?
Oui, vous avez raison. Par rapport à l'année dernière, au triste anniversaire que vous avez rappelé au début, les chiffres des arrivées à travers et des sauvetages à travers le canal de Sicile sont plus ou moins invariés. Il y a une légère diminution en termes de personnes qui sont sauvées et transportées sur dans les régions d'Italie du Sud, mais le numéro des victimes s'est accru des 2622 personnes qui étaient mortes jusqu'à la fin de septembre l'année dernière à 2736 cette année. Donc, malgré l'augmentation des dispositifs de sauvetage dont vous parliez tout à l'heure, qui est effectivement en place, même si avec des objectifs ambigus et complexes, comme le rappelait Claire Audier, les morts augmentent. Et je crois que l'explication principale qu'on peut donner aujourd'hui est que les conditions de transportation, de transport des migrants s'empirent de plus en plus. C'est-à-dire les organisations qui les mettent à la mer des côtes de la Libye utilisent des petits bateaux complètement inadéquats à la navigation, et donc même si le dispositif de sauvetage de Triton, de l'opération Sophie lancée par l'Union européenne et de la marine italienne sont de plus en plus rapprochés aux côtes libyennes, l'effort de sauvetage n'arrive pas à contenir la mortalité.
Alors on sait que la route des Balkans est quand même à peu près fermée. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un transfert des flux migratoires d'une route à l'autre, ou est-ce que les distances et les difficultés et les dangers sont tels que c'est une vue de l'esprit?
Mais on a beaucoup parlé de cet effet, disons, hydraulique de transfert de flux d'un côté à l'autre. On n'a pas aujourd'hui des preuves que cela soit en train de se passer. La composition des flux est différente. Il y a très peu de Syriens qui aujourd'hui essayent la très très dangereuse route libyenne. Les flux qui traversent la Méditerranée centrale sont essentiellement en provenance d'Afrique occidentale et d'Afrique orientale, avec comme nationalité plus représentée, c'est le Nigeria, c'est le Mali, c'est le Sud-Soudan qui est en croissance très très forte maintenant.
Et l'Érythrée aussi, hein? Érythrée, Éthiopie.
Bien sûr, la Somalie et l'Éthiopie également. Donc c'est des flux qui arrivent de bassins largement différents. Il y a eu jusqu'à 2014 composante importante de Syriens qui se poussaient jusqu'à la Libye. Ensuite, il y a eu une fermeture de frontières ultérieures de la part des gouvernements d'Afrique du Nord. Donc, Égypte et Algérie ont introduit une obligation de visa pour les Syriens et qui a découragé l'utilisation de cette voie avec en même temps l'énorme danger représenté non seulement par la traversée de la Méditerranée, mais aussi par la traversée de la Libye. Parce qu'on doit rappeler que la grande majorité des migrants interpellés à l'arrivée témoignent d'avoir subi des violences extrêmes en traversant la Libye. Travail forcé, violences sexuelles, violences personnelles. Et donc, qui a une route alternative, comme c'était le cas jusqu'à l'accord avec la Turquie pour les Syriens, choisit des routes alternatives.
Jean-Christophe Dumont, votre champ d'observation est plus large encore, puisque l'OCDE inclut tous les pays industrialisés. C'est néanmoins sur les politiques d'intégration des réfugiés en Europe que l'OCDE, je crois, en coopération avec la Commission européenne, va sortir un rapport sur les systèmes d'intégration pays par pays.
Absolument. On a sorti mercredi dernier un rapport avec la Commission européenne sur l'intégration des réfugiés en Europe. C'est un sujet sur lequel on travaille régulièrement, où on compare les politiques entre les pays de l'OCDE. C'est un défi majeur, puisque comme ça a été rappelé par les précédents intervenants sous différents angles, ce phénomène migratoire est amené à perdurer. Il perdure, cela dit, sous des formes qui sont diverses. Il ne faudrait pas non plus penser que le phénomène de crise ou de migration forcée est nécessairement dominant. En Europe, il y a plus d'un million de personnes qui, chaque année, entrent avec un permis de résidence de manière parfaitement légale et ordonnée. Et qui, donc, vont aussi devoir faire face aux défis de l'intégration.
Mais ça, c'est le principe de libre circulation
qui... Non, ce sont des gens qui viennent de pays tiers, donc en dehors de l'Union européenne, qui soit au travers du regroupement familial, soit au travers notamment des migrations de travail, qui sont minoritaires, viennent chaque année s'installer en Europe. C'est environ 1 million pour l'Europe, c'est environ 1 million pour les États-Unis, donc des chiffres qui sont équivalents, même si l'Europe est effectivement un peu plus importante. Les migrations en Europe ne sont pas fermées, même si cette crise migratoire, disons, qui perdure et qui, d'un point de vue humain, a déjà un coût tout à fait exorbitant, inacceptable, et qui, comme ça a aussi été rappelé, notamment en Méditerranée, ne cesse de s'alourdir, cette composante des flux ne domine pas nécessairement les migrations vers l'Europe. Alors, le défi de l'intégration se pose pour tout le monde, notamment pour les migrants familiaux. C'est, bon, si on prend l'exemple de la France, c'est une situation qui est bien identifiée comme étant, disons, un point à améliorer au niveau des politiques publiques.
C'est poliment dit.
Mais d'un point de vue des réfugiés, le défi est encore plus grand, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui arrivent avec derrière eux tout un tas de souffrances et de problèmes psychologiques auxquels ils ont dû faire face. Ils n'ont pas pu emporter avec eux leur documentation, leur papier. Ils n'ont pas du tout prévu peut-être même le pays dans lequel ils allaient aboutir, et ne parlent donc pas la langue de ce pays, n'ont pas forcément de relations. Et donc, ce processus d'intégration est un processus complexe, mais compte tenu évidemment de l'ampleur de ce phénomène et du fait qu'il va le perdurer, il est impérieux pour les politiques européennes de mettre en place des politiques plus efficaces pour permettre à ces gens de se réinstaller et de contribuer aux sociétés qui les accueillent.
Le vocabulaire qui est employé par l'organisation internationale, est-ce que c'est toujours un vocabulaire reposant sur le distinguo, disons, juridique, enfin qui remonte aux conventions de Genève, après la Seconde Guerre mondiale, on distingue toujours réfugiés des migrants économiques, ou est-ce que on se rend compte, encore une fois, que ces catégories maintenant sont beaucoup plus floues et beaucoup plus mélangées ?
Évidemment, elles sont floues et mélangées à bien des aspects. Seulement, on peut quand même faire une distinction claire, et à mon avis, c'est important de le rappeler, entre les gens qui ont un permis en bonne et due forme pour se réinstaller dans un autre pays, hein, donc on peut parler de migration légale, de ceux qui, forcés ou par des raisons économiques ou par des raisons, disons, simplement de survie en raison du risque qui a trait à leur vie, passent les frontières sans ce fameux sésame et cette autorisation. Donc cette distinction, on peut quand même toujours la faire, c'est dans les motivations à la fois des gens qui viennent de façon légale, qui peuvent rentrer au titre des migrations familiales, mais qui vont quand même contribuer sur le marché du travail. Donc cette distinction famille-travailleur est effectivement pas toujours claire, en tout cas dans les intentions. Et puis pour ceux qui rentrent sans l'autorisation, si vous voulez, qui sont forcés de migrer, qui peuvent le faire pour des raisons économiques, des raisons environnementales, des raisons politiques. Donc il y a dans les motivations qui sous-tendent le phénomène migratoire une pluralité des motivation, si vous voulez, mais on peut quand même et on doit, je pense, continuer à faire cette distinction entre les migrations légales et les migrations que l'on observe aujourd'hui aux frontières de l'Europe.
François Gémen, l'Union européenne a beaucoup de mal à convaincre les États membres d'avoir une politique commune en matière d'entrée, d'accueil et encore plus d'intégration.
C'est un euphémisme, oui.
C'est un euphémisme. Il n'y a même pas d'harmonisation véritable. L'accord qui a été conclu avec la Turquie, donc un accord initié par Mme Merkel seule et ensuite adoubé et repris en quelque sorte par la Commission, comment peut-on en évaluer l'application ?
Je dirais que c'est un accord de sous-traitance qui, au fond, confie à la Turquie le soin de s'occuper d'un problème dont l'Union européenne, ou plutôt dont les gouvernements de l'Union européenne, refusent de s'occuper, pour lequel ils refusent de coordonner leur politique et de mettre en place un projet commun en matière d'asile et d'immigration. Et donc c'est une sorte de fuite en avant, ou faute de mieux, faute de savoir quoi faire, on décide de sous-traiter le problème et donc en quelque sorte de se défausser de ses responsabilités, y compris en renonçant à certains principes fondamentaux du droit d'asile, comme le principe de non-refoulement. Comment évaluer son application? Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui semble clair, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup moins de traversées depuis la Turquie vers la Grèce, mais c'est au prix d'une augmentation massive du nombre de traversées depuis la Libye vers l'Italie, c'est-à-dire d'une traversée qui est beaucoup plus longue et surtout
oui,
beaucoup plus dangereuse.
Oui, mais Ferruccio Pastore nous expliquait il y a quelques minutes que ce ne sont pas les mêmes.
Ce ne sont pas des masses communicantes, bien sûr que non. Et donc, on se retrouve malgré tout en Turquie avec un nombre considérable de réfugiés. La Turquie est aujourd'hui le pays du monde qui accueille le plus grand nombre de réfugiés et qui sont, dans une sorte de situation de demi-vie, puisque d'une part, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir retourner en Syrie, en tout cas pas dans les prochaines années, manifestement, et d'autre part, ils sont en Turquie dans une situation d'attente qui ne leur permet pas de reconstruire leur vie véritablement, qui ne leur permet pas de reprendre leur carrière ou de reprendre leurs études. Et c'est pour ça que autant voulait aller en Europe. Alors maintenant, à la suite du coup d'État avorté en Turquie, il y a évidemment de très lourdes hypothèques qui posent sur la suite de cet accord et sur le suivi de son application.
Un accord largement financé, puisque
l'Union
européenne...
Un accord qui est financé à hauteur de 3 milliards plus 3 milliards d'euros, c'est-à-dire une somme d'argent relativement conséquente. Et puis surtout, le point crucial de l'accord, c'est la question de l'exemption des visas pour les ressortissants turcs qui souhaitent visiter l'Union européenne.
Et ça, c'est toujours pas réglé.
Ce n'est toujours pas réglé. Le gouvernement turc demande que l'exemption de visa soit mise en œuvre dès la fin du mois d'octobre. On voit mal, en l'état actuel des choses, comment cela pourrait être le cas.
On a vu aussi en Allemagne, dimanche dernier, la sanction électorale dans le Länder d'origine de Mme Merkel, donc dans ce qui était jadis l'Allemagne de Neuss, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, où il y a très très peu de réfugiés, où le SPD, donc le Parti social-démocrate qui fait partie de la coalition, est sorti en tête, mais où le parti d'extrême droite, AfD, a devancé le parti de Madame Merkel. Et il y a des élections aussi à Berlin, le 18 septembre, qui sera sans doute un autre moment de sanctions possibles pour cette politique très largement installée par Madame Merkel et aussi par la population allemande en faveur des réfugiés. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous avez relevé dans le magazine allemand Le Spiegel une étude très complète sur les conditions d'intégration, un bilan, une sorte de bilan de la politique d'intégration de ces réfugiés en Allemagne.
Oui, et l'exercice est en fait assez difficile, car évidemment c'est un sujet à la fois hypersensible politiquement, et le plus souvent d'ailleurs les arguments avancés par les uns ou par les autres ne reposaient, en tout cas jusqu'à présent, sur aucune donnée chiffrée, ou en tout cas très peu. Alors c'est justement pour combler ce vide que les journalistes du Spiegel ont passé à la moulinette toutes les statistiques sur les réfugiés. Et alors, voilà cet état des lieux. Tout d'abord, bon, et là c'est pas une surprise, l'Allemagne a accueilli l'an dernier 1 million de migrants. Au cours du premier semestre de cette année, elle en a accueilli encore 220 000, mais ce flux se réduit. Ils étaient 92 000 arrivés en janvier, mais seulement 16 000 en juillet, c'est ce que relève en tout cas le Spiegel. Un tarissement qui s'explique à la fois par la fermeture de la route des Balkans, on en parlait tout à l'heure, et bien sûr par l'application de cet accord avec la Turquie, accord sur lequel pèse évidemment aujourd'hui beaucoup d'incertitudes, note le Spiegel. Quand on regarde maintenant les demandes d'asile, eh bien, l'Allemagne essaye évidemment de faire face, en particulier l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, dont le nombre d'agents a triplé. Des dizaines de bureaux ont ouvert dans le pays, hein, mais ça ne suffit pas, déplore le Spiegel. Il y a encore plus d'un demi-million de dossiers aujourd'hui en attente. Côté logement, le bilan est, lui, plutôt positif. L'Allemagne est parvenue à loger 1 million de réfugiés, écrit le journal. Et on est très loin de la situation chaotique des débuts de l'année dernière. Petit bémol, beaucoup de ces logements sont temporaires quand il ne s'agit pas, dans certains cas, de containers meublés. Après le logement vient la question de l'intégration, une question clé, car comme l'écrit le journal, le vrai test est de savoir si l'Allemagne peut intégrer des centaines de milliers de nouveaux résidents. Et là, le bilan est très, très mitigé. Problème de langue, absence de professeurs, les défis sont immenses, en particulier pour les plus jeunes. Côté maintenant insertion professionnelle, eh bien, ça reste toujours aussi compliqué. Et le slogan entonné l'an dernier par les organisations patronales « Tous ensemble » sonne un peu faux. Au total, détaille le journal, l'intégration professionnelle se résume à 1800 stages, 500 formations professionnelles et 400 vrais postes. Jusqu'à présent, très peu de réfugiés ont réussi à entrer sur le marché du travail, regrette le Spiegel, qui rappelle la fameuse expression d'Angela Merkel, « Wir schaffen das », en français « Nous allons y arriver », les mots qui divisent l'Allemagne, expliquent les journalistes du Spiegel.
Un bilan, en tout cas, qui est beaucoup plus impressionnant que tout ce que l'on a pu faire en France pendant la même période. Vous avez aussi relevé, Eric, dans la presse britannique, qui commente avec, il faut bien le dire, une certaine stupéfaction, ces bulles de xénophobie qui étreignent l'opinion publique britannique depuis le référendum sur le Brexit. Et ce sont les Polonais, cette fois, qui sont particulièrement visés.
Oui, et en particulier depuis que les statistiques britanniques ont révélé, eh bien, ont donné leur dernière livraison et ont montré que les Polonais, maintenant, cette fois-ci, ont dépassé l'année dernière les Indiens pour devenir le premier groupe de migrants en Grande-Bretagne. Au total, récapitule le journal The Times, eh bien, les autorités britanniques ont recensé 831 000 ressortissants polonais. C'est plus que le nombre d'habitants de Cracovie, hein, pour mettre un peu en perspective. Cracovie, c'est la deuxième ville de Pologne. Les chiffres montrent également que le nombre, alors cette fois-ci, de ressortissants de l'Union européenne qui vivent en Grande-Bretagne dépasse 3 millions, ce qui montre, et là je cite encore le journal, ce qui montre que le défi qui attend Theresa May pour parvenir à restreindre les arrivées en provenance de l'Union européenne après le Brexit, eh bien ce défi est loin d'être relevé.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Claire Audier, ces deux exemples, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ça n'a évidemment rien à voir. Néanmoins, on voit que s'installe, encore une fois, jusque dans le vocabulaire, cette même confusion. Les Polonais qui sont en Grande-Bretagne sont des citoyens de l'Union européenne. La Grande-Bretagne n'est pas dans Schengen, et encore moins que jamais. Et néanmoins, on voit que la réaction d'hostilité, même dans une petite ville à 50 km au nord de Londres, là, ces derniers temps, où il y a eu deux agressions, il y a eu l'assassinat d'un ouvrier polonais à la fin du mois d'août. Donc, ce sont des éruptions qui correspondent malgré tout dans nos pays à un sentiment d'insécurité, de rejet de l'autre.
Certainement, oui, mais en écoutant ce compte-rendu de ce qui se passe en Allemagne et en Angleterre, je pense à d'autres époques de l'histoire, notamment le début du XXe siècle, dans de nombreux pays, y compris des pays européens, où des Polonais déjà, pour la France, des Italiens, ont fait l'objet de persécutions, de pogroms parfois. Je pense aussi à l'accueil de certaines nationalités aux États-Unis, pourtant pays très ouvert et à la recherche de bras au début du siècle. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, et si j'y fais référence, c'est pour peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce moment que nous vivons en ce moment et l'inscrire dans une perspective plus historique. On est dans un temps. On est dans un temps de l'histoire de la migration, une histoire qui n'est pas terminée, loin de là. On peut effectivement s'inquiéter, se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe en ce moment, mais on peut aussi se dire que le mélange des populations, l'arrivée de nouvelles populations dans une société fragilisée, ce sont des phénomènes qui ne sont pas nouveaux et qui sur lesquelles l'histoire est passée, avec l'intégration, parfois elle s'impose d'elle-même.
Avec des facteurs économiques, démographiques, oui. qui peuvent se révéler au fil de l'histoire tout à fait positifs. Hein, c'est ce qu'on
tout
a
tout
vu
fait,
en particulier.
Voilà, il y a eu beaucoup d'études aussi pour montrer effectivement l'impact positif.
Et ça, les opinions publiques en Europe, en tout cas,
bien sûr,
ont beaucoup de mal.
Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je me répète un peu, il appartient, il me semble, à ceux qui savent ou qui sont censés savoir d'expliquer cela, d'expliquer qu'on est dans un moment, mais que on n'est pas aujourd'hui menacé. Je voudrais revenir un petit peu sur, et c'est pas décalé par rapport à la question que vous posiez, sur l'accord UE-Turquie. Vous disiez quel est l'impact aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de son application. On n'en est pas grand-chose pour ce qui est de l'Europe, finalement. On rêvait, il était imaginé qu'on allait renvoyer en pagaille des migrants arrivés en Grèce vers la Turquie. Avec
toujours sur la base de cette distinction des migrants économiques, surtout des
Afghans, pakistanais. Non, là même pas, parce que tout le monde pratiquement est réfugié, en tout cas potentiellement réfugié. 90% des personnes qui sont dans les îles grecques sont afghans, irakiens ou syriens. Donc là, on est pratiquement sur une population qui a vocation à obtenir le statut de réfugié. Mais l'accord a ce site particulier, et c'est en ce sens qu'il y a un renoncement aux principes qui fondent l'Union européenne, notamment c'est le droit d'asile, c'est qu'il prévoit de renvoyer y compris les réfugiés potentiels en Turquie avec l'argument que la Turquie est un pays sûr pour les réfugiés, puisque là, ils n'y sont pas persécutés. Mais ce qu'on voit aujourd'hui...
Et il n'y a pas eu de remise en cause depuis le coup d'État avorté du 14 juillet.
Il n'y en a pas eu, mais il n'y a pas eu non plus de renvoi, pratiquement. Et finalement, je pense que c'est la passivité de la Turquie qui joue aussi là-dedans. La Turquie est en position d'attente. À la mi-octobre, on saura peut-être ce qu'il en est pour cette histoire de visa, où on saura que ça ne marche pas. Et pour l'instant, la Turquie en est à menacer de rouvrir le robinet des migrants si l'Union européenne n'accepte pas.
C'est évidemment un outil de pression.
Mais les conséquences pour notamment les Syriens, il y en a directement en Turquie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la frontière entre la Syrie et la Turquie est fermée. Donc, ils ne
Nous
peuvent
en
plus
parlions
passer.
Ici même,
ils sont obligés
dernier.
De prendre d'autres routes, encore plus dangereuses. Et ceux qui sont actuellement en Turquie, et qui sont arrivés depuis le mois de mars, depuis l'accord, ne trouvent même plus le statut temporaire relativement protecteur que leur conféraient jusqu'alors les autorités turques. C'est-à-dire qu'on est en train, comme l'a dit François Gemène, de repousser les responsabilités, de créer une situation de précarité encore plus grande pour notamment les Syriens, mais aussi les Afghans qui se trouvent en Turquie, et surtout de se débarrasser de ce qui se passe derrière la frontière turque. On ne veut pas trop savoir et on ne veut surtout pas assumer cette responsabilité-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos obligations internationales. Donc finalement, les effets de l'accord UE-Turquie, ils sont derrière les frontières.
Jean-Christophe Dumont, il y a évidemment ce constat au niveau européen de cette incapacité des États membres à s'entendre sur une politique commune. Vous allez sortir, je crois, dans une dizaine de jours, le rapport annuel de l'OCDE sur les migrations. C'est au moment de l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, est-ce qu'on voit une prise de conscience quand même d'un besoin de coopération internationale? Les États au niveau national ne peuvent rien faire, un par un.
Je pense que c'est un constat effectivement qui est assez évident et peut-être évident même pour tout le monde, que aucun pays ne peut, face à des crises de l'ampleur de celles qu'on connaît ces dernières années suite au conflit syrien, et peut-être aussi aux crises à venir en se projetant un petit peu dans les évolutions démographiques et peut-être climatiques qui vont frapper le continent africain. Aucun pays à lui seul ne peut gérer ça, même pas l'Allemagne et sans doute même pas l'Union européenne. Il y a absolument une des choses que révèle cette crise, c'est la nécessité de renforcer la coordination, la coopération internationale. Donc d'une façon peut-être un petit peu, disons, paradoxale, je crois que tout le monde fait ce constat, et c'est un constat qui va être fait encore à New York au moment de l'Assemblée générale, de ce sommet sur les migrants et les réfugiés. Mais l'étape suivante, qui consiste à traduire ça dans des actes et dans des politiques communes, c'est une étape qui, pour l'instant, semble très difficile à surmonter. Pourquoi ? En partie pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la très grande sensibilité des opinions publiques sur les questions migratoires, le processus de repli qu'on observe non pas seulement en Europe, mais dans d'autres pays de l'OCDE également.
On le voit aux États-Unis dans la campagne électorale, où là ça prend, avec la campagne côté républicain, des proportions absolument caricaturales.
Même. Il y a cette image qu'avec la migration, on ne peut que perdre des votes. Et que donc, il faut, dans la mesure du possible, éviter le sujet plutôt que d'essayer, d'avancer ensemble, même si on reconnaît l'urgence et la nécessité, d'un point de vue, disons, de l'efficacité, de traiter ces questions de façon collégiale. Je crois que beaucoup reste à faire, qu'il y a des éléments de cette coopération internationale qui sont en train de se mettre en place, mais qu'il faut, accélérer, parce qu'on peut peut-être encore considérer que cette crise-là nous a pris par surprise. On ne pourra plus sortir le même argument à la prochaine crise ou, disons, à la prochaine évolution de la crise actuelle.
On sait que les institutions internationales, et en particulier les organisations qui dépendent de l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, très précisément, sont non seulement débordées, mais n'ont absolument plus les moyens financiers de faire face. On voit en revanche que le rôle des pays d'accueil, notamment la Jordanie, est un rôle qui devient davantage reconnu et respecté. C'est-à-dire que, voilà, on dit qu'ils contribuent d'une certaine manière, eux aussi, à une forme de solution. Est-ce que c'est un embryon de...
Bon, en tout cas, sur le premier point de votre remarque, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles opère l'UNHCR, je crois que c'est une situation qui atteint un point, disons, de non-retour. Il faut savoir que les pays n'ont pas d'engagement, l'UNHCR n'a pas de budget préétabli, il n'y a pas de cotisation obligatoire à cette organisation. Chaque année, l'UNHCR doit négocier son budget avec les États membres. En ce qui concerne la réinstallation, c'est-à-dire que le nombre de réfugiés reconnus que les pays s'engagent à prendre d'eux-mêmes. Il y a des négociations qui ont lieu chaque année. Je crois qu'il faut donner les moyens à cette organisation qui, par ailleurs, sur
mais
le terrain...
Mais ça, c'est un vœu pieux, parce que, encore une fois, les gouvernements semblent totalement indifférents.
C'est une étape essentielle. On ne peut pas faire l'hypothèse que les pays sont prêts à coopérer sur ces questions-là. Il faut créer une structure pour cette coopération. C'est un des points que l'on va faire, notamment à cette Assemblée mondiale.
Ferruccio Pastore, vous êtes avec nous par téléphone de Rome. Je vous en remercie. Vous dirigez le Forum international et européen de recherche sur les migrations. Revenons à cet accord Europe-Turquie, où il y avait l'idée au départ peut-être un peu simpliste qu'il y aura une espèce de bouchon turc pour fermer l'accès des Balkans et donc de l'Europe centrale, dont on connaît les réticences par rapport aux réfugiés. Est-ce que vous avez, vous, les moyens d'évaluer concrètement l'application de cet accord ?
Non, effectivement, le problème de l'opacité dans l'application de l'accord est un problème central qui est devenu de plus en plus sérieux après le coup d'État et le contre-coup d'État en Turquie. Il ne faut pas oublier en même temps que cet accord a été un exercice de, je dirais, pragmatisme de survie pour le gouvernement allemand, qui était menacé par l'intérieur, par la CSU, par son partenaire du sud de l'Allemagne, qui était investi par les flux en entrée de l'Autriche, qui a menacé de rompre l'accord de gouvernement. Donc, il est clairement un compromis de realpolitik très dur, mais au moins, il aurait fallu et il faudrait une surveillance sur l'application qui est maintenant impossible à cause de l'attitude du gouvernement turc. Donc, on est vraiment attaché à ce fil parce que c'est la seule réponse européenne qui a en quelque mesure marché du point de vue pratique pour contenir les flux, ce qui intéressait les gouvernements. Mais bien sûr, c'est une solution très précaire. Et c'est pour cela que les gouvernements cherchent d'activer des réponses encore plus vers la source des flux. Il y a ce grand discours sur un plan Marshall pour l'Afrique, le nouveau partenariat avec les pays d'origine. Mais là, c'est des réponses encore de plus longue durée, encore plus complexes, pour lesquelles les ressources mises en champ par l'Europe sont pour le moment complètement inadéquates par rapport à l'envergure des objectifs.
Comment évolue l'opinion publique en Italie ? On sait qu'à nouveau, il y a un afflux de migrants vers la Sicile et vers la Botte. Les chiffres sont à nouveau en augmentation par rapport au mois dernier, me semble-t-il. Comment est-ce que l'opinion publique réagit ?
Les chiffres sont importants. Il y a des jours où on arrive à des 5 000, 6 000, 7 000 sauvetages dans une journée par le dispositif mis en place par l'Union européenne et l'Italie. L'opinion publique italienne, à différence de la plupart des pays européens intéressés, est en quelque façon habituée. Il y a une longue familiarisation avec le phénomène, il ne faut pas oublier...
Dans les deux sens.
Dans les deux sens. Et cela, je crois, représente en quelque mesure une antidote à un discours populiste trop marqué. Il y a eu, par exemple, à l'occasion du tremblement de terre en Italie centrale la semaine dernière, des tentatives d'exploiter cela par des véritables chacals politiques qui ont essayé de dire « Ah, comment les réfugiés sont dans les centres d'accueil tandis que les victimes du tremblement de terre sont dans les tentes ?» Mais ce genre de discours si agressif n'a pas, il me semble, fait prise. Et je crois qu'un autre facteur de cette, pour le moment, tenue de l'opinion publique relativement par rapport à d'autres exemples européens, et aussi le discours tenu par le gouvernement. Là, je me rattache à ce que disait Claire Rodier, je crois qu'il y a effectivement une marge d'action pour les élites, pour la classe politique. Le gouvernement italien, à présent, est en train de tenir un discours équilibré, de ne céder pas à la tentation de la sécuritisation de ce qui se passe. Et je crois que cela a un effet et prévient des extrémisations et une dérive dans l'opinion publique.
Pourtant, Ferruccio, pardon, mais on a vu au niveau des élections municipales il y a quelques mois, les succès de Cinque Stelle et qui est quand même un mouvement populiste anti-élite, anti-discours sur l'optimisation, la coopération, enfin tout, et l'Europe. Donc ce mouvement de 5 étoiles n'utilise pas l'argumentaire xénophobe.
Le mouvement 5 étoiles, hein, sur le thème de l'immigration, une attitude très ambiguë. Beaucoup d'entre eux sont issus d'une gauche plus traditionnelle. Ils ont une reluctance, une hésitation à utiliser de façon ouverte des mots d'ordre xénophobes. Donc, ils ne se caractérisent pas pour le moment particulièrement sur ces terrains. Non, je ne dirais pas. Mais en même temps, ils occupent un espace populiste et je crois pour le moment, ils peuvent représenter un peu un barrage vers une expansion des discours xénophobes. J'espère de ne pas être trop optimiste là-dessus, mais je ne vois pas le mouvement 5 étoiles épouser de façon indifférenciée. Ils sont ambigus, bien sûr, de temps en temps, ils font des allusions, mais ce n'est pas leur point fort, disons.
Claire Rodier, quel est selon vous, dans le monde aujourd'hui, le pays qui a la politique d'accueil et d'intégration la plus équilibrée? Est-ce qu'il y en a un seul?
Je ne sais pas si on peut trouver aujourd'hui un pays qui aurait une politique d'immigration équilibrée. Parce
Il y a le Canada.
Oui, il y a le Canada d'une certaine façon, mais enfin le Canada a aussi une politique d'asile qui s'est extrêmement durcie sous l'influence de l'idéologie sur les faux réfugiés et aujourd'hui la menace terroriste et qui commence à atteindre aussi ce pays. Mais j'aurais presque envie de répondre à votre question en disant que ça ne se peut pas finalement un pays qui aurait trouvé la solution pour réguler correctement l'immigration.
Pays qui a le système le plus rigoureux dans tous les sens du terme, c'est l'Australie.
Disons que le pays occidental, oui.
Pays
après,
occidental.
On peut parler aussi de la Corée du Nord. Et de...
Certes, mais enfin, restons voilà. Dans un pays occidental, voilà, démocratique,
voilà, une démocratie. On peut dire que oui, c'est l'Australie, puisque l'Australie a, en tout cas, s'agissant du droit d'asile, a renoncé depuis la fin du XXe siècle à appliquer la Convention de Genève à l'égard des réfugiés et se débarrasse complètement de toute possibilité. Alors, c'est facile parce que c'est une île. Il y a quelques comparaisons à faire avec le Royaume-Uni à cet égard. C'est plus facile de se débarrasser de toute arrivée spontanée. Effectivement, elle a mis un système extrêmement rigide. Elle est absolument régulièrement condamnée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, par les Nations Unies sur sa politique en matière de respect des droits fondamentaux.
Et notamment obligée d'évacuer cette île qui servait d'île prison en quelque
sorte.
Oui,
enfin ça fait des années que ça dure, ça s'était arrêté, ça revient. L'Australie a aussi acheté au Cambodge la gestion de ces réfugiés qu'elle renvoie là-bas. Ça marche pas bien, mais ça se fait. L'Australie a envoyé l'armée et a menacé de tirer sur des bateaux de migrants, notamment afghans, qui essayaient de rejoindre ses côtes. Elle a effectivement acheté des îles, des micro-territoires pour en faire des prisons pour étrangers. Donc on est là dans un schéma qui échappe un petit peu, de moins en moins finalement, à notre entendement européen, puisque l'accord Union européenne Turquie est quand même eu un premier pas, il me semble, vers ce renoncement aux obligations internationales. Mais plus généralement, je pense qu'effectivement, c'est quand même très très difficile d'imaginer une gestion qui ne soit pas une façon pour les États de s'adapter à ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas, voilà, il faut à la fois savoir anticiper, c'est-à-dire ne pas mentir quand il y a une guerre en Syrie et dire vous en faites pas, il n'y aura pas de Syriens chez nous, ce qu'a fait la France pendant longtemps quand même. Hein. Jusqu'à il y a un an où le président de la République française a dit l'Europe n'avait pas mesuré l'impact sur son territoire de la crise syrienne. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient anticipé.
Une guerre qui déchire ce malheureux pays.
Mais voilà, il faut à la fois essayer d'anticiper et puis surtout il faut s'adapter, mais comme on le fait avec beaucoup d'autres phénomènes comme la natalité, comme les épidémies, on s'adapte. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui manque, ce qui fait défaut aux États, c'est d'essayer de s'adapter aux situations qui ne sont pas forcément des crises explosives, mais en tout cas qui, dans une modalité qui permettrait de faire de l'autorégulation des mouvements de population qui sont très difficiles à organiser de haut, me semble-t-il.
François Gémen, ces mouvements de population, quand on les étudie, comme vous l'avez fait pour cet atlas que vous avez publié aux presses de Sciences Po, je crois, ces mouvements de population, encore une fois, on est obnubilé en Europe par ce qui se passe à nos portes, mais à l'échelle de la planète, il y a des mouvements de population encore beaucoup plus conséquents, beaucoup plus volumineux.
Bien entendu, nous voyons toujours l'émigration par le petit bout de la lorgnette. Ce qui nous intéresse, au fond, ce n'est pas l'état des migrations internationales. Ce qui nous intéresse,
matin, c'est ce qui nous intéresse.
Aujourd'hui, bien sûr. Mais en général, ce qui nous intéresse, c'est davantage les gens qui arrivent chez nous, c'est-à-dire les « eux » qui vont arriver chez nous. Et donc, on a l'impression que la population se déplace massivement du sud vers le nord, ce qui n'est pas le cas. L'essentiel des flux migratoires, ce sont d'abord des mouvements migratoires à l'intérieur d'un même pays, des mouvements internes. Et si on prend les migrations internationales, les flux migratoires les plus importants, ce sont des migrations du sud vers le sud, donc d'un pays en développement.
Et notamment en Afrique.
Vers un autre pays en développement. En Afrique ou de l'Asie du Sud vers les pays du Golfe, par exemple. Voilà un flux migratoire très important aujourd'hui. Il y a aussi des flux migratoires du nord vers le sud qui sont très importants. Il y a davantage de Portugais aujourd'hui qui migrent vers l'Angola que d'Angolais qui migrent au Portugal. Et donc on est face à une certaine forme, je dirais, de continuité des flux migratoires, même si, bien entendu, il y a des crises qui surgissent à certains endroits du monde et à certains moments, mais globalement, on reste dans une continuité des flux migratoires. Et le problème, c'est que nous n'acceptons toujours pas d'accepter cette structuralité des flux migratoires. Nous continuons à les considérer comme quelque chose de conjoncturel, et donc on est sans cesse dans une optique réactive par rapport à ces flux migratoires. Nous les considérons soit comme un problème à résoudre quand tout va bien, soit comme une crise à gérer lorsqu'il y a des flux plus importants qu'à l'ordinaire. On n'a toujours pas accepté de développer un véritable projet politique sur ces questions d'asile et d'immigration, tant à gauche qu'à droite. Et le résultat, c'est que l'extrême droite s'empare évidemment de ce champ politique laissé complètement vide par les partis démocratiques.
Jean-Christophe Dumont, encore une fois, à l'Assemblée générale des Nations unies, donc dans une dizaine de jours, il y aura les discours, comme d'habitude, il y aura les vœux pieux. Est-ce que, grâce au rapport que vous allez publier, à ce moment-là, vous avez quand même l'impression, c'est un rapport annuel, est-ce que d'année en année, vous avez quand même le sentiment que les esprits, encore une fois, comprennent davantage l'aspect structurel de ces phénomènes migratoires dont parlait à l'instant François Gémen?
Le constat est mitigé, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que notamment sur les effets économiques de l'immigration, on a apporté dans les débats publics, l'OCDE mais d'autres organismes, d'autres chercheurs bien entendu, énormément d'éléments pour montrer qu'il n'y avait rien à craindre et sans doute, si c'était bien géré, beaucoup à gagner des migrations pour tout un chacun. Ce discours-là ne passe pas. Ou en tout cas de façon très limitée. L'immigration est encore vue comme effectivement une crise à gérer ou un problème à résoudre dans la plupart des cas. Je crois qu'il y a un décalage qui se crée entre non seulement la perception et la réalité, vous l'évoquiez précédemment, mais aussi, disons, entre les bénéfices et la distribution de ces bénéfices, c'est-à-dire à qui profite finalement le phénomène migratoire. Et en quoi, pour moi, qui vit dans tel quartier, telle localité, ce phénomène peut m'apporter quelque chose
m'enlever
quelque chose. Donc il y a la perception que voilà, ça peut juste m'enlever quelque chose et que les gains, si gains il y a, seront finalement pour d'autres ou à un niveau tellement général que je n'en vois jamais finalement le fruit. Et donc là, pour rebondir aussi sur ce que disait Claire Rodier tout à l'heure, à l'heure. Je pense qu'il y a un effort pédagogique de la part de tous ceux qui ont le micro, c'est-à-dire à la fois les décideurs politiques, mais aussi le monde médiatique, les chercheurs, pour non seulement effectivement essayer de réconcilier la réalité avec les perceptions. Les gens surestiment toujours énormément les phénomènes migratoires, en général par un facteur de 2 à 3 en ce qui concerne l'importance de la population immigrée dans nos pays.
Vous voulez dire qu'il y a un phénomène un phénomène optique
où on en général, quand on demande aux gens combien vous pensez qu'il y a d'immigrés dans votre pays, en France, les gens répondent 25%, alors qu'il y en a entre 10 et 12% selon qu'on compte les rapatriés d'Algérie ou pas, enfin pour faire court. Donc c'est un facteur de 2. Aux États-Unis, c'est encore plus, puisqu'ils disent 35%, alors qu'on est autour de 13%. Donc il y a une surestimation flagrante de l'importance du phénomène migratoire, mais d'ailleurs aussi dans le débat public. Enfin, le phénomène migratoire est très important. C'est une question à laquelle il faut porter beaucoup d'attention, mais il y a d'autres questions qui sont peut-être encore plus importantes, auxquelles il faudrait porter une attention tout aussi importante. Donc là, il y a un décalage qu'il faut évidemment contribuer à résoudre, mais il faut aussi essayer de comprendre pourquoi, finalement, même si on apporte les éléments objectifs, les faits dans le débat public, ces faits ne percutent pas l'imaginaire collectif, et on en reste effectivement à la crainte, à la peur, au fait que l'immigration est un risque et pas une chance. Je pense que au-delà du discours, il y a effectivement des actions à mener, mais aussi pour comprendre quelle est la nature de ces craintes et peut-être identifier les gens qui pourraient ne pas gagner du processus migratoire. Il y a aussi des gens qui
Mais ça, c'est ce que font les partis politiques en période électorale du matin au soir. Enfin, on a l'impression d'ailleurs qu'ils ne s'adressent qu'à ces catégories-là de l'opinion.
Non, parce que, si vous voulez, il y a une sorte de rhétorique qui s'installe sur l'immigration n'apporte pas de bénéfices, ne peut être qu'un danger, une crainte, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement montrer que, possiblement, il y a aussi quelque chose qui contribue au développement économique et social d'une façon positive. Je crois qu'on a énormément d'éléments là-dessus. Il faut ramener ces éléments au niveau des gens et pas simplement au niveau macroéconomique.
Claire Audier, en guise de conclusion, donc très brièvement, si vous aviez une formule magique à susurrer à l'oreille de nos gouvernants, quelle serait-elle ?
Je ne sais pas, je ne vais sûrement pas répondre à votre question. Moi, ça me fait un peu penser aux questions environnementales. Finalement, on sait, ils savent. C'est pas la peine de leur susurrer une formule magique. Ils savent parfaitement ce qu'on dit là, ce que disent la grande majorité des chercheurs, tous les gens qui travaillent sur l'immigration.
Non, mais une formule magique pour convaincre les opinions publiques, je parle de cela.
Ah oui, pour eux, mais il faudrait qu'ils en aient envie de convaincre. C'est ça le problème. Je retournerai la question. Comment l'opinion peut convaincre les gouvernements, que notre avenir ne repose pas sur l'installation d'un apartheid mondial où il y aurait d'un côté ceux qui sont protégés dans leur forteresse et de l'autre côté ceux dont on veut pas. Ça ne peut pas, ça n'existe pas.
Et ça n'a pas existé dans l'histoire.
Et ça n'a pas existé, ça n'a jamais marché. Ça ne peut pas marcher. La formule magique, non, je n'en ai pas, et je pense que c'est vraiment plutôt de la part de la population qu'il doit y avoir une interpellation. Il y a quand même quelques exemples positifs dans le Calaisie où des gens qui n'étaient absolument pas sensibles à la question de l'immigration, parce qu'ils ont rencontré des personnes, se sont mobilisés et aujourd'hui ont compris les enjeux dont on parle aujourd'hui, à cette table. Je pense que cette conviction, elle peut venir de la proximité et du contact justement avec ceux dont on veut nous faire croire qu'ils sont là, qu'ils nous font peur.
Je recommande en tout cas l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions La Découverte, Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Merci Claire Rodier d'avoir participé à notre émission. Merci à vous François Gémen. Vous avez donc publié l'Atlas des migrations environnementales, c'est aux presses de Sciences Po, ça vient de sortir. Jean-Christophe Dumont va donc guetter deux rapports. Le rapport que vous publiez avec la Commission européenne sur l'intégration des réfugiés dans nos pays et bien sûr au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, le rapport annuel de l'OCDE sur ces questions. Merci aussi bien sûr à Ferruccio Pastore qui était avec nous par téléphone de Rome. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Olivier Dupré. Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, va compléter sur notre site toute la bibliographie nécessaire. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, voici l'économie en question avec Dominique Rousset. Très bon week-end et à samedi prochain.